L'épopée de 17 moines bénédictins originaires des Aldudes, racontée par Michael et Ramouspé. La dernière fois, nous avions parcouru la région de Victoria en Argentine avec trois moines des Aldudes. À présent, où allez-vous nous conduire, Michael et Ramouspé ?
Oui, effectivement, après la fondation de Belloc, les États-Unis, l'Argentine, nous allons prendre la direction du Moyen-Orient. Nous traverserons la mer Méditerranée pour nous rendre à Jérusalem, où nous retrouverons trois moines des Aldudes, Raphaël Ardance et son frère Théophane Ardance, ainsi que Benoît Garriador, leur cousin germain. Alors, résumer en une courte chronique leur histoire est bien sûr mission impossible, mais on peut tout de même essayer de façon très incomplète, certes, d'essayer d'en tirer quelques éléments. Mais tout d'abord, il faut raconter comment est née cette fondation. Il se trouve que les moines du monastère bénédictin de la Pierre qui vire avaient eu connaissance d'une propriété de l'État français à Abou Ghosh, à 12 km de Jérusalem. Par un concours de circonstances aussi cocasses que providentielles, qui mêlent les intérêts politiques et les visées religieuses de la part de Rome, cette fondation va réussir. Alors, les rivalités des pays occidentaux dans cette région du monde, dominée par un empire ottoman de plus en plus en difficulté, poussent la France à avancer ses pions. Et c'est pour cela que la jeune République française, la Troisième République, a besoin des congrégations religieuses. Et c'est ça qui est cocasse, c'est qu'en même moment, ce gouvernement interdit ces congrégations en France. Évidemment, dans l'esprit du gouvernement français, ces religieux dont il a besoin ne peuvent être que de nationalité française. Il est hors de question de confier ces biens, je parle des biens du gouvernement français, à d'autres Européens, et surtout pas à des Allemands. Alors, ajoutons encore pour la compréhension qu'en Palestine, le gouvernement français restait dans la continuité de la politique traditionnelle de la France, protectrice des chrétiens d'Orient, depuis le renouvellement en 1773 par Nointel, ambassadeur de Louis XV des traités, appelé également capitulation. Bon, voilà le volet politique. Ouvrons à présent le volet religieux. Alors, le pape Léon XIII veut également, pour d'autres raisons, venir en soutien aux chrétiens d'Orient. Et pour accélérer ses projets, il va édicter un motu proprio, une espèce de décret, en novembre 1899, qui commence ainsi. Considérant les avantages considérables que les fils du patriarche Saint-Benoît peuvent procurer aux chrétiens d'Orient, autorise la congrégation bénédictine à prendre possession du sanctuaire d'Abou Ghosh, rappelons-le, propriété du gouvernement français. Alors, nous avons donc le gouvernement français, le pape Léon XIII, mais nous avons également le patriarche syriaque Ephrem II Rahmani qui demande aux bénédictins de prendre en charge la création d'un séminaire de rite syriaque à Jérusalem. Donc, en plus de la restauration d'Abou Ghosh et de l'érection d'un monastère, il s'agit également de construire sur un terrain qui se trouve sous le mont des Oliviers à Jérusalem, un centre de formation au service du clergé syriaque. Alors ici encore, un éclaircissement s'impose. Comment se fait-il que l'islam conquérant n'ait pas fait disparaître les communautés chrétiennes lors de sa fulgurante expansion des 7e et 8e siècles? En fait, les pays conquis sont restés au moins dans un premier temps chrétiens et le sont demeurés car les vainqueurs, un peu dépassés par leur conquête, il faut le dire, avaient besoin de cadres pour leur administration. Alors, moyennant un impôt, la jizya, les chrétiens fortunés sont restés à leur poste. De plus, leur statut juridique de dhimmi sous les Ottomans leur permet d'être protégés, et ce jusqu'en 1923, chute de l'Empire ottoman. Alors, parmi ces communautés chrétiennes, il y a donc les chrétiens syriaques dont on a parlé un peu, le syriaque étant la langue liturgique. C'est une branche de l'araméen, la langue de Jésus. On peut rapidement citer les autres traditions. Alors, il y a le rite byzantin, qui est héritière des habitudes des églises de Jérusalem et de Constantinople. La communauté grecque orthodoxe a une grande influence dans tout l'Orient chrétien, notamment par l'usage de son rituel liturgique de langue grecque. Il est caractérisé donc par la divine liturgie, dont la prière eucharistique la plus célèbre est celle de Saint Jean Chrysostome. Nous avons également les rites coptes et éthiopiens, indépendants du patriarcat d'Alexandrie et rattachés à la figure de Saint Marc. Les communautés coptes sont majoritairement orthodoxes et se rencontrent en Égypte et en Éthiopie. Alors par contre, les écritures et les dialectes diffèrent. C'est le démotique en Égypte et le gèze en Éthiopie. Nous avons également le rite maronite. C'est la figure du moine Maron, du 4e, 5e siècle, originaire d'Antioche, qui est la grande référence des chrétiens du Liban. Alors il se réfugie dans les montagnes du Liban au moment des conquêtes musulmanes. Et ces communautés, en communion avec l'Église catholique, utilisent la version syriaque de la Bible. Nous avons également les rites arméniens et géorgiens. Alors, ce sont des royaumes évangélisés dès le 4e siècle. Les chrétiens d'Arménie et de Géorgie sont culturellement très proches, même si leur destin se sépara au 6e siècle autour des débats du concile de Chalcédoine. Pour terminer ce tableau très incomplet, je vous le concède, précisons que ces églises sont autonomes par leur propre hiérarchie, mais que certaines d'entre elles, comme les Syriaques, ont reconnu en 1783 le pape de Rome comme successeur de Pierre et donc chef de l'Église universelle. Soyons encore plus précis, ce ne sont pas tous les Syriaques qui ont fait cette démarche, mais une partie des Syriaques. Et c'est ce qui explique pourquoi Léon XIII soutient cette église tout en reconnaissant sa spécificité dans les rites. Voilà donc dressé à grands traits la situation que les bénédictins de Belloc vont trouver. Et c'est l'histoire de ces trois bénédictins des Aldudes qui participent activement à la réalisation des projets que nous allons raconter la prochaine fois. Il s'agit donc, rappelons-le, de Benoît Garriador de la maison Chiloinia et de ses deux cousins germains, les frères Raphaël et Théophane Ardance de la maison Menta, et les trois sont d'ailleurs les neveux du père Odilon Ardance.
Merci beaucoup Michael Ramouspé, merci à tous les auditeurs pour leur écoute et à bientôt.